La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes le 7 janvier 2015 à Paris. En fin de matinée, deux hommes vêtus de noir et lourdement armés pénètrent au siège du journal Charlie Hebdo. Ils ouvrent le feu à la Kalachnikov. 12 personnes sont tuées, journalistes et dessinateurs, policiers, un agent de maintenance. L'attaque est qualifiée d'attentat terroriste par le président Hollande. Le journal va continuer, ils n'ont pas gagné, affirme l'un des chroniqueurs quelques heures plus tard. Aujourd'hui paraît le nouveau numéro de Charlie Hebdo. On va revenir, nous, ici aux origines du journal et aussi de la presse satirique.
C'est le seul journal où on peut faire des dessins franchement satiriques. Et donc voilà, donc c'est un espace qui est rare.
Un jour dans l'histoire.
Voilà le dessinateur Rice, ici membre de Charlie Hebdo, qui a été blessé lors de ces attaques de mercredi dernier. Alors avec nous pour évoquer les origines et le sens de la presse satirique, Philippe Marion. Bonjour Philippe Marion.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'orientation, analyse et des médias du département de communication de l'Université catholique de Louvain et membre de l'ORM, qui est l'Observatoire du récit média. Et puis vous faites partie aussi de la rédaction de la revue Recherche en communication. Et Philippe Marion, vous publiez aujourd'hui dans Le Soir une carte blanche qui s'intitule Avanti Cartooniste. Avant de nous intéresser à l'histoire spécifique de Charlie Hebdo, on va peut-être remonter aux origines de la presse satirique. On peut situer les prémices à quelle époque environ?
Mais habituellement, on se situe plutôt autour de la Révolution française. Hein. Donc, ce courant de cette révolution, comme elle porte bien son nom, a mis les choses, a retourné toutes les choses et les situations, et ça a donné un certain espace de liberté pour une expression de presse satirique, qui était évidemment incompatible avec les régimes trop forts. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs.
On a vu des caricatures, des dessins à propos de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui ne sont pas piqués des hannetons. Hein.
Ah oui, non, il y avait des choses très très intéressantes, en termes, ne serait-ce qu'en termes graphiques, mais aussi en termes de risques encourus par les dessinateurs, avec ce pouvoir quand même beaucoup plus fort qu'aujourd'hui.
Les rois, les princes ont été la cible privilégiée, mais aussi évidemment la religion, c'est une tradition je dirais.
Oui, ça c'est vraiment un des grands classiques, la religion a toujours fait figure d'épouvantail, a toujours mobilisé les cartoonistes, ne serait-ce qu'en Belgique d'ailleurs. Hein, c'est ça qui a fondé en Belgique la presse satirique, c'est vraiment le combat anticlérical, ou bien pro-clérical, de manière plus réduite. Mais c'est ça qui a motivé beaucoup de journaux satiriques. C'était la même chose en France, hein, le côté attaque à la religion chrétienne, catholique, en l'occurrence, surtout au XIXe siècle, a été quelque chose qui a animé beaucoup de ferveur cartoonesque.
Quand nos amis français disent que vraiment cette liberté d'expression, cet esprit satirique est une spécificité française, ils ont raison de le dire ou c'est bon, voilà, c'est un peu chauvinisme?
C'est un peu chauvin, mais c'est juste quand même, c'est vrai quand même, parce que l'esprit français et la tradition française et l'histoire de la France fait que ce genre d'esprit satirique s'est très très bien développé et trouvé un terreau qui n'était pas le même dans d'autres conditions, dans d'autres contextes. Donc je crois qu'il y a une part de vérité. Bon, maintenant, il faudrait nuancer. Hein, ça, c'est notamment ce qui s'est passé aux États-Unis avec le courant underground, les comics underground, les mouvements tels que la revue Mad, par exemple, aux États-Unis, a été quelque chose d'important aussi. Hein, et donc, il y a d'autres lieux où l'esprit satirique se développe. Mais quand même, la francité a quelque chose de symbiotique avec la satire.
Et cette attaque de la religion, on a l'habitude de lire qu'elle est moindre justement dans les pays anglo-saxons. On le constate aussi, ça? Ou on l'a constaté?
Oui, c'est vrai, c'est un principe de réserve par rapport aux croyances. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, qui n'est pas moins le cas en France. La France a considéré que la question du dogme et la question des croyances devaient être dénoncées, attaquées aussi, surtout dès lors qu'elles prêtaient à des conditionnements, à des asservissements. Ouais. Et donc, c'était particulièrement virulent en France pour ça.
Un élément quand même qui est important à souligner, c'est l'illettrisme qui demeure important au sein de la population. Donc ça va favoriser l'essor de ce type de presse.
Tout à fait, parce que il y a la principale raison, c'est l'illettrisme. Hein, au XIXe siècle, une image avait une force dans les milieux populaires que ne pouvait pas avoir la presse écrite à cause de cette capacité de lire. Mais ce n'est pas la seule raison, parce que l'image a ceci de particulier, c'est qu'elle suscite surtout l'image dessinée suscite une relation, suscite une réaction directe. Donc on a, par exemple, la possibilité avec l'image de mettre en relation des choses. Un peu comme dans un court-circuit qui fait que surgit un sens qui serait beaucoup plus difficile de développer en écriture. Donc il y a un côté immédiat, il y a un côté réactif du dessin et de l'image qui est aussi une des raisons de son succès.
Essor donc de cette presse satirique au XIXe siècle, vous le disiez, avec des lois qui vont abolir la censure, mais en même temps il y aura toujours quand même pas mal de contrôles préalables aux parutions. Est-ce que cette presse est réellement populaire, je parle du XIXe siècle, ou est-ce que ça reste le fait d'intellectuels ou d'élites?
Mais écoutez, c'est quand même ce sont des tirages qui sont relativement limités malgré tout. Mais quand vous voyez par exemple que si je prends l'exemple de la Belgique, hein, le journal Baskimp en néerlandais tirait à quelques 10 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Mm-hmm. Et donc il y avait quand même un certain retentissement important. Je pense en France à ce qui s'est passé avec la caricature ou avec Charivari, qui quand même avait des tirages intéressants. Ouais. L'assiette au beurre, quand même très populaire, qu'on lisait dans les cafés, etc. Donc il y a une certaine circulation, un succès réel.
L'assiette au beurre qui est vraiment une sorte de point d'ancrage de cette presse satirique qui est née en 1902, je crois, qui tire surtout l'assiette au beurre.
Oui.
C'est pas que sur la religion.
Ils avaient une vocation, ils se prétendaient anarchistes d'ailleurs, revendiquaient la nature anarchiste et la nature de l'attaque subversive dans le sens radical du mot subversion, c'est-à-dire en latin, subverterer, donc s'attaquer vraiment aux valeurs, aux normes d'une société donnée, en les dénonçant, en les attaquant par tous les moyens.
Vous avez déjà un petit peu évoqué le cas de la Belgique, on va évoquer maintenant d'autres exemples en Belgique de cette presse satirique. Comment s'est-elle développée? Nous sommes avec Philippe Marion.
3,50 tous les jeudis, dans tous les cas.
En vente partout.
Même en Belgique. Quand tu ouvres Charlie Hebdo, qu'est-ce qui te frappe? Des dessins.
Ah, je ne suis pas d'accord.
Pour tout.
Je suis le lecteur je suis le lecteur type.
T'es sous comme une vache.
Ça va, je suis bourré comme une vache.
Ça
va. À partir de là, il n'y a plus rien à dire, tu comprends?
Écoutez, je m'adresse à la Belgique, là.
Ouais,
quand vous entendez le directeur d'un journal dire « Je suis le lecteur type de ce journal », eh bien, même un Belge rigolera.
Voilà, ici un extrait d'un reportage RTBF de 1976 à retrouver sur le site de la Sonuma. On entendait Cavana et puis le professeur Choron. On reviendra à ces personnages évidemment fondateurs de Charlie Hebdo. Restons un peu chez nous avec vous, Philippe Marion. La liberté de la presse est garantie par la Constitution de 1831. Est-ce que ça veut dire que cette presse satirique va pouvoir s'épanouir allègrement et sans aucun frein?
Il y a toujours des freins, il y a de l'autocensure sûrement, et puis l'air du temps qui fait une certaine pression, qui fait qu'on a une certaine réserve. Il y a des sensibilités qui n'étaient pas les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui, mais n'empêche, on voit s'épanouir beaucoup de titres.
Ouais.
On dit d'ailleurs que le 19e siècle, c'est l'âge d'or, autant en France qu'en Belgique, d'ailleurs, de la presse satirique. Bon, on peut discuter sur l'âge d'or, bien sûr, mais quand même, ça veut dire qu'elle a pu s'exprimer, elle a pu prendre des risques en évitant... des retentissements, bien sûr, ça fait réagir, c'est son propos, mais c'est quand même passé. Hein.
Avec un tabou quand même absolu, qui est la personne du roi en Belgique.
Ça reste un grand tabou et on n'a pas pu l'attaquer directement très très longtemps, ça c'est sûr. Ça reste encore maintenant d'ailleurs. Quand on parle avec Kroll, il dit « Bon d'accord, on peut rigoler, mais quand même, il y a des réactions. »
Et pourtant,
quand il est en chaussons, en pantoufles.
Et pourtant, des journaux comme Méphistophélès et l'Argus, donc au XIXe siècle, ils ont été poursuivis pour injure à la personne du roi, mais ce sont des poursuites qui n'aboutiront pas. On peut citer d'autres journaux comme Manneken Pis, le Charivari belge, qui est une sorte de prolongement du Charivari français. L'opposition catholique libéraux en Belgique va favoriser la presse satirique, c'est un terreau fertile.
Oui, 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 d'accord, parce qu'il y a une opposition classique dans tout le 19e siècle en Belgique entre les libéraux et les cléricaux. Et donc ça a été disons l'aiguillon qui a mobilisé la presse caricaturale. Ouais.
L'Eulenspiegel aussi, hein, fondé par Félicien Rops, et puis deux journaux dont j'aime beaucoup le nom, c'est Le Gourdin de 1887 à 1887, et puis La Trique en 1905.
Oui, c'est ça, la Trique avait la bombe aussi, hein, des titres très significatifs.
Est-ce qu'il y a des journaux satiriques d'une presse cléricale? Est-ce que ça existe?
Ils ont essayé d'avoir une contrepartie, disons. Hein. La presse cléricale, voyant les dégâts que ça faisait, on a essayé d'en faire quelqu'un, mais ils sont rares. Ils sont relativement rares. J'ai ici dans mes notes quelques noms comme le Tirailleur 1881 ou le Sifflet, mais c'est vraiment une minorité par rapport à L'Autre Bord, qui était beaucoup plus importante.
Alors Pourquoi Pas sera fondé en 1910, il disparaît en 89. En 1945, création de Pan, qui est inspiré du Canard enchaîné français. Ce Canard enchaîné qui reste donc avec Charlie Hebdo l'un des titres les plus emblématiques de la presse satirique. Alors si on se plonge dans l'histoire de Charlie Hebdo, on va ouvrir donc un autre journal qui s'appelle Harakiri. Là on est en 1960. Qui a créé ce journal, Philippe Marion?
Donc, Harakiri, on a les figures légendaires de Choron, bien sûr, et de Cavana, hein, qui étaient les complices, disons, fondateurs du journal. Il y en avait quelques autres, mais enfin, c'était eux surtout qu'on a retenus. Et donc, on est dans une nouvelle forme de presse qui se revendique anarchiste, hein, qui revendique la subversion et qui prétend pouvoir dégager l'atmosphère de la lourdeur de l'emprise politique de l'époque.
C'est un journal qui se dit bête et méchant aussi.
Ah oui, oui, oui. Oui, ça annonce clairement un journal irresponsable et bête et méchant. Oui, parce que ça vient dans la petite histoire d'un courrier des lecteurs qui leur reprochait d'être non seulement bête mais aussi méchant, et c'était immédiatement récupéré comme le slogan fondateur, le slogan de base du journal, le journal bête et méchant.
Ce que contredira Volinsky, qui est une des victimes des attentats plus tard, en disant non, on n'est pas méchant, on est cruel, on est dur, mais on n'est pas méchant, disait-il.
Bon, c'est toujours une question de la définition de la méchanceté. C'est vrai, quand on voit Walensky, surtout Cabu, je remarque dans les hommages qu'on fait, tout le monde dit qu'ils sont des gentils, des vrais gentils, surtout leurs collègues. Hein. Donc, je crois que la méchanceté peut être discutée, peut-être. Mais disons qu'il y a un côté corrosif. Je crois qu'il faut distinguer la méchanceté du côté corrosif. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui attaque, hein, qui est agressif dans ce sens-là. Bon, ce n'est pas forcément la méchanceté dans le sens réfléchi et calculateur du terme, mais il y a un côté cynique, corrosif.
Alors, beaucoup de problèmes de censure, évidemment, pour Harakiri. Le journal est interdit en 1961. Il reparaît, et puis de nouveau interdit en 66. Reparition. Charlie, il naît comment, Charlie Hebdo?
Eh bien, il naît de... C'est indissociable d'Harakiri, hein. C'est quand même lié à l'histoire de Harakiri. On a le fameux événement de 1970, qui reste un élément de légende, où le décès du général de Gaulle en novembre 1970, et le titre de Harakiri, qui fait encore parler beaucoup aujourd'hui, « Balle tragique à Colombey, bilan un mort ». Alors, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, parce que sinon c'est peu compréhensible aujourd'hui. Pourquoi « balle tragique » ? C'est une réaction corrosive, une réaction d'humeur et d'humour par rapport à la couverture d'un événement qui est parallèle. C'est l'affaire du Dancing 5-7, où il y a eu 146 morts en novembre 1970, et la presse a, de manière beaucoup trop unanime aux yeux de Harakiri, tartiné sur, en utilisant toujours le même titre, « balle tragique ». Hein, donc « balle tragique » est devenu un stéréotype de presse. Et donc, dans sa bonne tradition de dénoncer les stéréotypes de tous bords, Harakiri a repris cette histoire de balle tragique, mais en l'associant avec quelque chose d'autre et de très frileux en termes national, c'est le décès de cette figure de légende qui était le général de Gaulle.
Parce qu'on le disait tout à l'heure, chez nous, la personne du roi est inattaquable. En France, aussi des grands personnages. Enfin, à l'époque de De Gaulle, De Gaulle était quelqu'un. Est-ce que c'était quelqu'un d'inattaquable?
Oui, quand même, oui. Ouais. Oui, relativement, oui. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de réactions hein, dans les milieux officiels, ouais. Ce titre-là. Et De Gaulle était quand même une figure de légende et une figure autoritaire et peu attaquable. Ouais. Bon, elle était attaquée gentiment par les humoristes, hein, par Francis Blanche, etc., les imitateurs, mais ça restait plutôt dans le consensus glorifiant, malgré l'humour. Donc peu de choses directement agressives sur lui.
Francis Blanche, qui faisait partie hein, de l'équipe de Harakiri, oui, Topor, oui. Réserve, Volinsky, Jebe, Cabu déjà. Donc le journal est interdit après ce fameux bal tragique à Colombey, un mort. Il faut savoir qu'ils avaient lancé en fait une autre formule Harakiri hebdo, qui était plutôt bande dessinée. Oui. Et donc pour s'en sortir, ils vont relancer l'Harakiri interdit sous le titre de Charlie Hebdo. Officiellement, donc ce n'est pas la version d'Harakiri, mais enfin on sait très bien ce qu'il en est devenu. Oui. Quelles sont les ressources financières de Charlie Hebdo à l'époque déjà?
Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans un système d'actionnariat, société par action. Et donc, il y a des cotisations des membres fondateurs, hein, des actions, des prises d'actions, des parts d'actions, et puis il y a les ventes au numéro, donc le système des abonnements et de ventes. Mais ils n'ont pas de subsides, ni Charlie d'ailleurs, en termes de publicité. Hein. Ils ont toujours refusé ça jusqu'à maintenant.
Donc c'est l'avantage, c'est une relative liberté, enfin une grande liberté rédactionnelle. Évidemment, il y a un handicap, il y a un coût à ça, à cette liberté.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que disait Charb. Hein. Ouais. Il disait finalement, regardez la presse gratuite, elle est obligée de faire des contorsions en termes d'éditorial. Elle fait du compromis éditorial misérable. Les 2,50 € que coûte Charlie Hebdo, c'est le prix de la liberté d'opinion.
La presse satirique aujourd'hui, des origines à Charlie Hebdo avec Philippe Marion.
La grande trouvaille de Cavalin, ça a été d'imaginer un journal où il n'y avait pas besoin de rédacteur en chef. Il suffisait de réunir une équipe de gens qu'il estimait, et puis il les laissait faire. Et ça, personne d'autre l'a compris. Et ça, personne d'autre le pratique, parce que c'est impraticable ailleurs qu'ici. Parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut le faire en toute liberté, parce que partout ailleurs, il y a la publicité qui impose ses règles, et qui impose une hiérarchie dans le journal, avec un type qui choisit en fonction de certains critères imposés par la publicité ou par la politique du journal. Et puis voilà, on continue de nous regarder comme des gens curieux, des phénomènes, et personne nous imite, on est inimitable, parce qu'on sait très bien que tant que le système sera ce qu'il sera, il n'y aura que Charlie Hebdo qui pourra fonctionner de cette manière-là.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Reportage RTBF 1976, on entendait ici le dessinateur GB qui faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Le 23 décembre 1981, faute de lecteurs, la parution du magazine s'arrête au numéro 580. On se souvient, Philippe Marion, du professeur Choron, un Georges Bernier qui engueule pratiquement les lecteurs au cours de l'émission de Pollack, la Droit de réponse.
Oui, ça s'est resté aussi un moment de légende dans notre culture médiatique, parce que bon, Choron avait un peu forcé sur la bouteille et il a dit des choses qu'il n'aurait peut-être lui-même a dit qu'il aurait été un peu trop loin, mais enfin c'est resté dans les annales et ça a causé quand même du dissensus par rapport à ses propres collègues.
Ouais.
Et donc Choron, malgré tout ce qu'il a pu essayer après, a été un peu marginalisé par rapport à ses propres amis de Charlie Hebdo.
Et d'ailleurs, il ne fera pas partie de la renaissance de Charlie Hebdo. Donc là, on est en 1992. On retrouve Cabu et un certain Philippe Val. Donc, Philippe Val va redonner naissance à Charlie Hebdo.
C'est ça, donc il restait toujours un titre qui était disponible, hein, Charlie Hebdo restait disponible, et c'est Volinsky d'ailleurs qui dit « Pourquoi pas Charlie Hebdo, le titre est libre hein, », qui s'exclame en comité de rédaction, et c'est accepté tout de suite, avec Philippe Val aux manettes hein, de direction. Et avec GB, Cabu, Renault même était dans le... Et l'édition qui soutenait le journal s'appelait cyniquement, quand on voit les choses d'aujourd'hui, les éditions Kalachnikov. Ouais.
Est-ce que cette nouvelle version de Charlie Hebdo en 92 donc, joue la continuité? Est-ce que c'est le même esprit que l'ancêtre, je dirais?
Ça garde les mêmes fondamentaux. D'ailleurs, les dessinateurs sont les mêmes. Il y a quand même Cabu, GB qui sont dans la vieille tradition. Mais il y a quand même une modification, je crois, en termes de ligne idéologique. Disons que le côté anarchiste qui était dominant auparavant est plutôt passé du côté sensibilité d'extrême gauche.
Ouais.
À cette époque-là, en tout cas. Hein, donc, un combat plutôt de gauche extrême.
C'est Philippe Val, donc, qui est directeur de la rédaction. C'est un directeur de rédaction assez contesté.
Oui. C'est-à-dire, il a eu une gestion assez autoritaire. Il y a eu des démêlés avec plusieurs dessinateurs. Plusieurs collaborateurs sont partis, dont des sociologues, etc. Et puis, il y a eu le fameux démêlé avec Ciné, dessinateur Ciné. Sur une question apparemment anecdotique, c'était je ne sais plus exactement les termes, mais Ciné avait fait dans un de ses textes, écrit cette fois-là, avec des illustrations, mais avait parlé du fils de Sarkozy, hein, de Jean Sarkozy, qui il relatait donc le fait qu'il avait eu un problème en justice pour un délit de fuite à bord d'un scooter. Et alors, Ciné avait dit à peu près ceci: non seulement il est sorti du procès sous les applaudissements, mais en plus, aujourd'hui, il est en train de préparer son mariage avec l'héritière d'Arty, donc de la tradition juive, en se convertissant au judaïsme. Mmh. Et il a simplement terminé: il ira loin, ce petit. Mmh. Et c'est ça qui a insupporté Philippe Val, qui quand même était relativement frileux du côté de l'antisionisme.
Ouais.
Et donc ça a fait c'est pas la seule chose, hein, il y a eu plein de choses.
Ils s'opposeront aussi sur le référendum européen, ou non à la Constitution européenne en 2005. Ouais. Philippe Val dit oui, Ciné dit non. Et puis il y a les années 2000, donc qui sont marquées par la montée d'un islam radical. Il y a le combat de ceux qui dénoncent l'islamisme assassin et ceux qui traitent ces derniers de racistes. L'un des chroniqueurs va soutenir l'italienne Oriana Fallaci, qui dans un ouvrage La rage et l'orgueil pointait cette question. C'est une sorte de climax avec les caricatures que reprend Charlie Hebdo, des caricatures parues dans un journal danois qui ont déclenché l'ire de beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, on se dit Charlie, mais il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, en 2006, donc au moment des caricatures, Charlie n'a pas fait l'unanimité lorsqu'il a publié ses dessins.
Non, c'est vrai, ça a été un gros débat et même Chirac lui-même parlait de provocation manifeste, qu'il fallait éviter les provocations manifestes. Donc il y avait un réel débat autour du respect de la sensibilité musulmane, la question de dessiner ou pas le prophète, qui fait d'ailleurs aussi débat au sein de la communauté musulmane, hein, c'est pas si clair. Mais enfin, bref, il y avait toute une polémique, tout un débat. Le fameux argument de mettre de l'huile sur le feu, qui ressort encore aujourd'hui d'ailleurs avec la nouvelle parution de Charlie, était déjà bien actif à l'époque.
Puisqu'aujourd'hui, Charlie, donc, sur sa couverture, met encore le prophète avec une larme à l'œil qui donne son pardon. Philippe Val va quitter le journal en 2009. Hein, il rejoint Radio France et Sharp qui devient directeur de la publication. Il y aura d'autres procès, d'autres scandales. Charlie Hebdo est vraiment le fleuron de cette presse satirique pour vous qui êtes un des spécialistes, Philippe Marion.
Oui, ça reste avec le Canard enchaîné, hein, ça reste quand même le fleuron, oui, dans la communauté française, en langue française sûrement. Ça reste quelque chose qui est irremplaçable et qui a une histoire et qui a sa place importante, oui.
Mais fleuron qui reste solitaire, ou il y a quand même, il a fait des petits frères qui aujourd'hui se portent tant bien que mal.
Mais là, il faudra voir ce qui va se passer, parce qu'il semble avoir, évidemment on est dans l'émotion, donc c'est toujours difficile de décerner les mouvements, mais il semble avoir quand même quelque chose qui tient presque à la nature même de la caricature, c'est-à-dire que la caricature appelle une réaction du public. Et cette réaction, elle a pris un sens quasiment littéral et d'une amplitude inédite avec les réactions à cette agression de Charlie. Donc on pourrait peut-être avoir l'hypothèse que ce réveil citoyen, c'est un bien grand mot, mais on pourrait l'appeler comme ça, suscite des vocations de presse satirique et de réactions satiriques. Ce qui semble s'amorcer d'ailleurs dans ce qu'on voit dans les images, hein, chacun y va avec son crayon et commence à dessiner à son tour des dessins réactifs sur l'actualité.
C'est une image à charge forcément, la caricature, Philippe Marion ?
Oui, c'est en tout cas son étymologie, hein. Gargare, c'est l'image qui charge, charge quelqu'un, et qui applique une décharge aussi du côté du lecteur, hein, puisque finalement cette charge fait rire et donc ça permet de se mettre à distance aussi. Mais ça fonctionne dans un système que l'on doit partager. Or, les islamistes sont carrément hors de ce système. Hein. C'est pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Ils sont dans une autre dimension.
C'est tout, effectivement, le trouble, la difficulté de ce débat sur la liberté. C'est-à-dire la liberté, par définition, est-ce qu'elle, par définition, elle se termine quelque part, la liberté, Philippe Marion ?
Oui, je crois que j'ai envie de dire non. Hein. Mon cœur a envie de clamer non, elle ne doit pas se terminer. Mais quand même, ne serait-ce que la perspective historique montre que la liberté est toujours une affaire de contingence, de culture, de l'air du temps, de politique, de sensibilité, d'événements. Hein. Et donc il y a des fluctuations de ce qui est considéré comme possible dans la liberté. Et ça, c'est la limite de l'humain, tout simplement.
On n'est plus gentil, je dirais, aujourd'hui, dans la caricature que, par exemple, sous Daumier, hein, en France, 19e siècle, qui s'est retrouvé, je crois, souvent, enfin, il y a eu beaucoup de problèmes avec la justice, il caricaturait Louis-Philippe Empoire. Est-ce que c'est une période où on était plus méchant encore?
Oui, il y a eu Charles Philippon, notamment, avec cette histoire de poire, Louis-Philippe. On a l'impression, quand on voit, par exemple, l'assiette au beurre, que ses dessins étaient vraiment d'une agression, d'une force, d'une virulence que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. J'en parlais d'ailleurs avec Kroll qui dit, mais finalement, quand on regarde l'histoire de la caricature, tout a été fait. Hein. Tout a déjà été fait, donc on ne peut pas forcément aller toujours aussi loin. Et je crois que c'est un peu vrai aussi. Ceci dit, il y a toujours moyen de mettre en relation des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Je crois que c'est ça la force de la caricature. Un élément associé à un autre fait un déclencheur. Et on voit les choses différemment. Et je crois que ça, c'est toujours à renouveler.
La presse satirique, on va écouter encore une dernière fois aujourd'hui Volinsky et Cabu qui ont donc perdu la vie la mercredi dernier lors de cet attentat à Charlie Hebdo. On les retrouve ici, c'était en 1990.
Nous avons commencé avec Kavanagh dans les années 60. Nous avons créé le journal Harakiri, j'ai été parmi les premiers. Et ensuite, en 68, nous avons créé Charlie Hebdo. Parce que nous pensions qu'il y avait la place pour un hebdomadaire comme celui-ci. Mais nous étions les humoristes. Nous n'étions pas là pour donner des informations. Nous étions là pour donner une réflexion sur l'actualité.
Société, tu m'auras pas.
Un dessinateur, c'est un clown, c'est un bouffon à qui on permet de t'entendre dire la vérité, mais surtout de faire rire, quoi, c'est ça.
Voilà, ce qui en 81, Cabu en 1990, tous deux sur Antenne 2, et puis Renaud, sa société, tu m'auras pas, Renaud qui a été aussi l'un des acteurs de ce Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Philippe Marion, d'avoir été avec nous
Merci
aujourd'hui.
À vous.